Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et je reçois Harold David qui vient aujourd'hui sous une double casquette, directeur du Théâtre de Die et co-directeur du festival Éclat de Diolfi. Salut Harold.
Bonjour.
Tu es venu nous parler du tremplin découverte chanson française, un concours organisé depuis, c'est la 12e année cette année.
Voilà, oui, pour 2016, oui.
Et cette année, la finale de ce concours aura lieu à Die, au théâtre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concours ?
En fait, c'est un concours qu'on avait initié en fait en 2005, si ma mémoire est bonne, à Diolfi, dans le cadre du Festival Éclat, donc un festival que j'ai créé avec Moïse Hill, il y a plus de 15 ans maintenant, plus de 15 ans, on peut dire ça, puisqu'on a fait la première édition en 2002. Et très vite, on avait eu envie de mettre en place un concours, enfin un tremplin, enfin plus qu'un concours, l'idée c'était que ce soit un tremplin de découverte pour la chanson française, parce que on aime beaucoup la chanson française l'un et l'autre, et on avait envie de pouvoir, par ce biais-là, accompagner un petit peu l'émergence en chanson française, et que du coup, un tremplin, c'était un bon moyen de susciter un travail de repérage au travers de jeunes groupes ou de jeunes artistes au niveau national, parce que du coup on reçoit effectivement beaucoup de candidatures qu'on écoute, et ce qui permet à la suite de cela de découvrir des artistes qu'on connaît pas forcément. Et donc on avait mis ça en place, ça a très très bien marché au niveau du public de Diolfi, qui venait chaque année plus nombreux, parce qu'il y avait aussi le prix du public, etc. Donc ça les motivait, puis il y avait cette envie de découvrir des artistes qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, voilà, on a fait ça pendant 11 éditions, avec en gros une présélection qui se faisait sur disque dans le courant du printemps, et puis ensuite un choix de 4 à 6 candidats, des fois on est monté jusqu'à 6 finalistes pour la finale. Même un temps, on avait des demi-finales, je me souviens. On a simplifié depuis, mais voilà, il y avait des épisodes comme ça qui se terminaient tous au bout d'un moment par un temps de finale dans le cadre du festival, qui faisait une soirée en soi où le public découvrait effectivement les artistes sélectionnés sur plateau qui s'enchaînaient et qui donc présentaient leur travail évidemment devant un public mais aussi un jury, puisque parmi les prix il y a aussi un prix du jury. Et en fait le lien avec le Théâtre de Die, pour relier les deux histoires, sont que à partir du moment où moi j'ai commencé à m'occuper du Théâtre de Die au travers de mes fonctions au sein de l'association Festival SOS Théâtre de Die, je me suis dit c'est super, parce que du coup ça permet d'offrir parmi les prix qu'on offre, d'associer au prix, à la notion de prix du jury, un temps de résidence en fait de travail pour les artistes lauréats, de telle sorte qu'on soit vraiment le plus possible dans un accompagnement justement à l'émergence et au développement de carrière, avec du coup la possibilité pour les artistes d'avoir un espace, un lieu de travail pour pouvoir travailler leur prochaine création, enfin ou certains aspects en tout cas de la prochaine création, soit travailler les morceaux, soit travailler plus sur la mise en scène, sur la mise en lumière, etc. Et du coup, dès la première année, depuis 2011, l'année où l'association Festival Est-Ouest a repris la gestion du théâtre, on a accueilli des artistes lauréats du tremplin de Diolfi au Théâtre de Die. Alors ça n'a pas donné forcément lieu à des concerts au théâtre. Mais par contre, les artistes qui avaient travaillé à Die sont ensuite venus, parce que ça fait aussi partie du prix du jury, venus jouer à Diolfi au moment du festival sur l'édition suivante, et souvent dans le cadre de premières parties, de têtes d'affiche, justement pour leur offrir un maximum de visibilité et la possibilité d'être découvert à nouveau par un public plus large. Voilà, donc ça a fonctionné comme ça jusqu'en 2014, puisqu'en 2015, en fait, on a vu nos moyens se réduire un petit peu sur le festival Éclat à Dieulfi, que du coup, on a été obligé de réduire la durée effective du festival et de le faire passer de... Enfin, c'était du lundi au dimanche avant, et puis depuis cette année, c'est du mercredi au dimanche, donc on a enlevé 2 jours, et du coup... De fait, ça devenait compliqué d'arriver à trouver une place dans la programmation à Dieulfi pour faire cette soirée de finale en fait. Voilà, parce que ça nous limitait en termes de programmation. Donc je me suis dit, bah, puisqu'il y avait déjà ce partenariat antérieur avec le Théâtre de Die, on n'a qu'à inverser les rôles et puis faire que la finale ait lieu à Die, ce qui n'empêchera pas que ces artistes-là vont ensuite être découverts par le public du Festival Éclat, puisqu'ils seront de toute façon programmés par contre l'année suivante ou enfin au festival suivant à Dieulfi. Voilà, donc du coup il y a eu cette espèce de translation de Dieulfi à Die. Mais les deux structures restent partenaires. Bon, par force des choses, je suis un peu le trait d'union étant concerné par les deux. Et quelque part, je suis assez content aussi de faire en sorte que le public d'Iwa, que je commence à bien connaître quand même maintenant, puisse être impliqué voilà, dans le choix des artistes, etc. Bon, ça nous offre au niveau du théâtre une case de programmation supplémentaire avec une approche encore différente d'autres choses qu'on peut proposer. Et donc voilà, j'essaye toujours de faire en sorte que les contraintes soient moteurs pour être derrière sur des actions qui se développent au lieu de se sentir diminué par les contraintes. Voilà, d'essayer d'en faire des choses positives. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a essayé là. Voilà.
Le public d'Iwa a peut-être des goûts très différents du public de Dieulfi. On va peut-être avoir un prix du public qui donne un résultat inattendu.
Peut-être, ça, on verra ça le 5 avril, qui est le jour effectivement de la finale sur la scène du Théâtre de Die. Peut-être, voilà, effectivement, je ne peux pas présager effectivement de ce que le public d'Iwa aime en matière de chansons françaises, même si en plus il n'y a probablement pas un public de chansons françaises, mais des publics, d'autant que on dit chansons françaises, donc c'est vrai qu'en tête on a les grandes figures de la chanson française, Brel, Brassens, etc., Barbara et tant d'autres. Ce qu'on reçoit en termes de propositions de la part des candidats est beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire que le spectre de ce qu'on appelle la chanson française, c'est énormément élargi. Et on a à peu près tous les styles musicaux qui sont représentés à l'intérieur de cette étiquette chanson française. Parce que, en gros, c'est quoi la chanson française ? Enfin, qu'est-ce qui différencie la chanson française d'autres genres pour moi, en tout cas, et bon, je crois que c'est vraiment historiquement, c'est pas moi qui le dis. Voilà, la chanson française vraiment est née... au début fin 19e, début 20e, avec Aristide Bruand et les chansons qu'il écrivait, notamment sur les quartiers de Paris, etc., où c'est vraiment la première fois où, si on met de côté tout passé moyenâgeux avec les ballades, les troubadours et tout ça, le moment où il y a une chanson française un peu écrite, un peu construite, qui s'est mise en place. Et ensuite, effectivement, bah, ça a donné lieu à tout ce qu'on sait jusqu'à nos jours, avec évidemment cette période ultra faste pour la chanson française d'auteur, post-seconde guerre mondiale, avec l'explosion de tous ces artistes qui ont commencé dans les cabarets de la rive gauche et rive droite à Paris. Alors, évidemment, voilà, c'est les grands noms que j'ai cités tout à l'heure, Brel, Brassens et j'en passe. Et après quoi ? Après, il y a des artistes musiciens qui ont gardé ce lien fort avec la langue française, donc avec la notion d'écriture.
Ça fait partie des critères du prix du jury.
Ça fait partie des critères, ouais, clairement.
Enfin, déjà de sélection et puis ensuite du prix du jury.
Tout à fait. Ouais.
Si on peut, c'est très vague ce qui va plaire au public ou pas. En tout cas, vous avez des critères et tu insistes lourdement sur les qualités d'écriture.
Tout à fait. à fait. Pour ces raisons historiques que je viens d'évoquer, aussi par goût personnel, et aussi parce que je crois que c'est vraiment ce qui différencie, par exemple, la chanson française de la pop anglo-saxonne, où, au contraire, dans les musiques anglo-saxonnes, c'est souvent la dimension musicale qui prévaut sur les contenus, où c'est vrai que des fois, même si on prend les Beatles, par exemple, enfin, quand on traduit mot à mot les paroles des Beatles, c'est quand même pas de la grande littérature, on va dire.
Ils ont eu 2-3 coups de peau, 2-3 trucs qui sont assez poétiques, c'est vrai, il faut quand même admettre.
2-3, voilà. Sur. et ce sont les Beatles, donc on parle pas de tous les autres qui composent le paysage de la musique anglo-saxonne, mais c'est vrai que voilà, le texte est souvent secondaire, privilégier le rythme, la musique, la musicalité des mots avec la langue anglaise qui est très différente de la langue française. Et néanmoins, donc, pour en revenir. À nous français. Après tout, cette chanson française classique, on va dire, traditionnelle, post-Seconde Guerre mondiale, il y a eu plein de styles. Et aujourd'hui, dans la chanson française, il y a cet attachement à l'idée d'être relié à un texte, à la langue. Mais après, du point de vue musical, ça part dans tous les sens. Et on a aussi bien des choses qui vont du côté de l'électro, de la pop, du rock, de la chanson française de facture classique.
Un peu de rap, de hip-hop.
Il y a aussi des formes de slam qui s'apparentent à des formes de chansons françaises aussi. Enfin, vraiment, le spectre est ultra large et tant mieux. Parce que du coup, ça offre une diversité et donc on peut du coup à chaque fois sélectionner des artistes dans des univers musicaux très différents, ce qui fait que du coup la soirée proposée au public le 5 avril, comme les précédentes qu'on a faites à Dulfi, est vraiment une soirée de concert avec des couleurs musicales et donc des émotions très très différentes. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça me permet de montrer aussi la diversité de la création en la matière aujourd'hui.
Aujourd'hui, tu es venu parler effectivement de ce concours, de ce tremplin découverte chanson française, mais surtout voilà, de cette finale qui est en fait une soirée de concert proposée au Diwa afin de venir découvrir de nouvelles choses et puis également de faire partie d'une sorte de jury public qui va.
Il y a un prix du public, voilà, et donc effectivement, les gens peuvent voter comme à la télé, dans les grandes émissions.
Vous n'avez pas besoin de votre téléphone portable.
Non, il n'y a pas besoin de téléphone portable. C'est encore à la vieille manière, avec des bulletins où on coche des cases, qu'on met dans une boîte et tout ça, et qu'on dépouille. Donc voilà, il n'y a pas besoin de buzzer, de mettre en place une infrastructure de buzz. Le but, ce n'est pas d'éliminer les gens, mais de choisir quelqu'un, ce qui est aussi une démarche mentale un petit peu différente selon justement ses goûts et de manière subjective, parce que le succès d'un artiste ce n'est qu'une affaire de subjectivité. Pourquoi un instant T va correspondre à l'attente du plus grand nombre ou à l'attente non formulée du plus grand nombre, mais qui tout d'un coup va se reconnaître dans cette proposition musicale si on met de côté les opérations de marketing pur avec du matraquage qui fait que même si on n'aime pas, on finit par aimer à force d'en avoir plein les oreilles. Mais disons que globalement, quand il y a une adhésion comme ça massive du public pour un ou une artiste, c'est qu'on est dans le subjectif. Voilà.
Cette soirée, elle aura lieu le 5 avril 2016. Mais avant ça, comment ça se passe la sélection des candidats? Vous recevez quand même beaucoup de disques. Il y a une première
Il y a une phase. La phase dans laquelle on est actuellement, là, mi-janvier, c'est la phase d'appel à candidature. Donc, on a mis en place un bulletin de candidature, un bulletin d'inscription qui est disponible sur le site du théâtre, sur un certain nombre de sites, probablement très bientôt sur le site d'Air Diwa, je n'en doute pas. Voilà, qu'on a diffusé en tout cas assez largement et qui a pour fonction de faire que les gens puissent candidater et proposer leur travail. Donc il faut qu'ils envoient, ils remplissent le bulletin, ils envoient un CD, leur texte, etc. Sachant que une donnée vraiment importante, c'est que c'est un concours de chansons françaises originales, c'est-à-dire seront retoqués forcément tout ce qui a à voir avec la reprise d'un répertoire qui ne serait pas un répertoire original. Donc ça, c'est important de le préciser. Et donc les candidats potentiels ont jusqu'au 31 janvier en fait pour envoyer leurs propositions. Et ensuite, entre janvier et fin février, on va dire, début mars, on va mettre en place des séances d'écoute avec certaines personnes qui vont faire partie du jury qui sera là le 6 avril, et puis d'autres, des personnes locales qui vont écouter tout ça. Et l'idée, c'est d'arriver à sortir du lot quatre noms.
Sur combien de candidatures
en
moyenne ?
En général, on en reçoit ça dépend des années, entre 80 et 120. Voilà. C'est un peu la moyenne dans laquelle on est, qui viennent non seulement de toute la France, mais aussi des pays francophones. On a souvent eu des Suisses, des Belges, des Luxembourgeois, même, je me souviens. Enfin, voilà, donc,
L'important, c'est d'être francophone.
L'important, c'est d'être francophone, ce qui, évidemment, n'exclut pas d'avoir, pour certains... une partie des chansons, voire certaines chansons en anglais. On ne va pas sectaire par rapport à ça. On sait bien que y a une influence très forte de la langue anglo-saxonne sur les musiques, c'est pas d'aujourd'hui, et que donc il y a actuellement beaucoup d'artistes, y compris de chansons françaises, qui mêlent l'anglais au français. Et voilà, enfin, je sais pas, je prends quelqu'un comme Christine and the Queens, par exemple, qui a explosé l'année dernière. Elle est dans ce croisement des deux langues, et évidemment on va pas c'est valable pour d'autres langues aussi, hein. Il n'y a pas que l'anglais. Voilà, s'il y en a qui ont des qui sont proches de l'univers, je sais pas, d'un garçon là dont j'ai su qu'il avait beaucoup de succès, qui s'appelle Kenji Girac, je crois.
Formidable. Voilà. il me semblait que c'était presque censuré sur RDWA, mais c'est pas grave.
D'accord, tu vois. Enfin, qui mobilise un large public, manifestement.
Effectivement.
Pour avoir du coup été obligé, par force des choses, de pencher dans ce que faisait ce garçon, il mêle français, espagnol ou catalan, je sais plus, plusieurs langues. Ça n'empêche que ça reste peut-être de la mauvaise chanson française, je ne porterai pas d'avis, mais voilà. Mais en tous les cas, ça reste de la chanson française qui mixe plusieurs langues, quoi. Voilà. Donc là-dessus, non, pas de souci.
Pour rebondir sur Kenji Girac.
Oui.
Je l'ai dit, ça y est. Mmh. Je suppose qu'il y a des CD que vous écoutez très très rapidement et qui passent assez vite à la trappe.
Oui, il y a même, oserais-je le dire, des CD qu'on n'écoute même pas du tout. Alors c'est vraiment une toute petite minorité, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi personnellement, quand je suis dans cette séance d'écoute, la première chose que je regarde avant même d'écouter la musique, c'est je regarde des textes, parce que bon, je viens de là, moi, j'étais une formation littéraire et tout ça, et si les gens si je trouve que les textes sont indigents, je vois pas ce que la musique va pouvoir sauver, voilà, même si elle est... Voilà, ou alors faut de l'instrumental, mais si on prend la peine d'avoir une réflexion sur allier des mots, une langue avec de la musique, alors il faut qu'il y ait un travail à minima. Et ça, bon, c'est vrai que j'ai un peu l'habitude parce que, de voir si une écriture est travaillée ou pas. Voilà, donc du coup, si je vois d'emblée qu'elle n'est pas travaillée, j'ai même pas envie d'aller écouter le reste. Donc ça reste rare, hein, c'est peut-être sur 100, et peut-être un ou deux sur lesquels on se dit non, vraiment c'est même pas la peine, laisse tomber, on peut passer au suivant, parce qu'on sait que de toute façon on n'en fera rien. Voilà. À partir du moment où il n'y a même pas ce prérequis du travail, je dirais. Après, la qualité ou le fait d'aimer ou pas aimer, c'est encore une autre étape dans cette sélection sur disque. Parce qu'en gros, comment on fait ? Voilà, on a 100 CD, 100 candidatures à découvrir. On va faire un premier tour, on va essayer d'en garder plus que 20, enfin à peu près en général. Donc on va écrémer les 80 que malheureusement on ne va pas garder. Ensuite, le travail vraiment où tous les aspects, à la fois subjectifs, objectifs, qui permettent de se dire, bah oui, ça, on a envie d'accueillir, et on se dit c'est intéressant, pas seulement parce que c'est bien ou que ça nous touche, ou que, etc., mais parce qu'on sent qu'il y a aussi un potentiel, parce que l'idée d'un tremplin, c'est ça, c'est aussi de miser, entre guillemets, sur des gens dont on pense qu'ils vont avoir un bout de carrière, en tout cas, à faire, et que ce qu'ils nous envoient au moment où ils nous l'envoient, ce n'est qu'une étape dans leur parcours professionnel. Donc, ça rentre, cette dimension-là, elle rentre aussi en ligne de compte sur ce qu'on imagine ou ce qu'on pressent de ce que l'artiste pourrait devenir, justement, s'il était accompagné un peu plus, s'il avait, etc., etc. Et c'est un peu ces critères-là qu'on retrouve au moment de la sélection sur plateau aussi, ou quand on se retrouve avec différents programmateurs autour de la table et autres professionnels pour dire, on il faut qu'on choisisse un lauréat. La question est d'abord, est-ce que c'est quelqu'un que j'aurais envie de programmer dans mon festival ou dans ma salle, etc. De quoi cet artiste a besoin pour avancer? Parce qu'on a aussi eu des cas, par exemple, je me souviens de candidats où finalement on voyait pas bien ce qu'on pouvait leur apporter de plus, qui est arrivé à un seuil où c'était bien, ça tournait, ça fonctionnait, mais où on sentait pas de potentiel pour aller au-delà. Et donc, des fois, ça arrivait qu'on choisisse pour le prix du jury des candidats, enfin des finalistes, dont la prestation n'était pas forcément la meilleure dans l'absolu sur scène, mais dont on pensait que justement, avec une résidence, avec un accompagnement, etc., il y avait une belle matière. Quoi, voilà.
Quelquefois, des regrets peut-être. Là, je parle au jury tout seul, à Harold. Est-ce que des fois ça t'est arrivé d'avoir vraiment un coup de cœur et que ça aille pas plus loin dans la sélection ou...
Oui, c'est arrivé parce que d'abord, par définition, un jury c'est collégial, donc j'ai beau être à l'initiative, c'est pas à moi d'imposer mes choix ou mes goûts, donc des fois il y a effectivement des artistes que je préférais à d'autres qui n'ont pas été lauréats. Mais après, ce qui est bien dans le fonctionnement qu'on a, notamment avec tous les programmateurs qui sont associés au jury, c'est qu'on ne s'interdit rien. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider de programmer des artistes qui ne sont pas forcément les lauréats parce que nous, ils ont plus touché l'un que l'autre. On a une obligation pour le Festival Éclat de prendre celui qui a le prix du jury, néanmoins. Mais sinon, pour les autres programmateurs, ils peuvent tout à fait choisir. C'est arrivé assez souvent, d'ailleurs, que ils viennent aussi découvrir. C'est leur intérêt à venir participer à ce jury, c'est de découvrir des choses des artistes qu'ils connaissent pas. Donc, du coup, ils vont pouvoir programmer quelqu'un qui ne serait pas forcément lauréat. Au final, et ça c'est plutôt bien parce que ça laisse cette liberté de choisir, donc regret non, je dirais plutôt non dans le sens où quand on a un coup de cœur pour quelqu'un et qu'on fait le métier que je fais, c'est-à-dire de programmer des artistes, on a toujours un moyen de travailler avec eux même si ils sont pas lauréats.
Ça donne l'occasion de voir émerger des carrières. T'as deux, trois exemples à nous donner de gens que vous avez pu éventuellement faire démarrer, même au point de vue local ?
Personne n'est devenu une superstar, là, que je sache. Pour l'instant, ça viendra peut-être.
On peut être un artiste accompli sans être.
Mais heureusement.
Sans avoir des millions d'auditeurs.
Tout à fait, mais on peut aussi avoir des millions d'auditeurs et
ne pas être un artiste.
Aussi, ça c'est aussi. Possible, mais on peut aussi être un artiste, avoir des millions d'auditeurs et on a perdu un très grand il y a quelques jours et donc ça existe, des immenses artistes comme David Bowie qui ont marqué des générations et vraiment apporté quelque chose à la création musicale de manière définitive et absolue et être complètement dans le star system et être en même temps un vrai créateur. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles de ce point de vue-là. Je crois qu'il n'y a vraiment que l'éthique personnelle que l'artiste se donne dans la manière dont il exerce son métier, le rapport qu'il crée avec l'industrie, parce que dans la musique, on est passé un certain stade, on bascule dans l'industrie musicale, on n'est plus dans l'artisanat, loin s'en faut, parce que les enjeux financiers et tout ça sont tels que on peut vite être broyé et que l'important c'est effectivement de en tant qu'artiste, me semble-t-il, d'avoir cette vision éthique de son métier, de son travail et de pourquoi on le fait, et qu'après effectivement le succès c'est un truc tellement mystérieux qu'on ne maîtrise pas, qui appartient surtout pas à l'artiste dans l'absolu, sinon il est condamné, enfin s'il court après ça ou si il veut entretenir ce succès coûte que coûte, c'est forcément au détriment de sa liberté de création, puisqu'il va être en train de se projeter sur ce qu'il faudrait produire pour que ça puisse continuer de la même façon. Donc je pense que c'est vraiment là que ça se joue. mais je dérive, je crois, de la question initiale qui était...
On parlait des gens que vous avez pu faire émerger avec le concours.
Ah oui, des gens qu'on a pu faire émerger avec le concours. Quelques noms comme ça qui me viennent en vrac. Des gens comme Jérémy Bosson, comme Nicolas Fraissinet, comme... j'ai pas préparé ma petite liste, donc comme je vieillis mal, ma mémoire se dilue.
T'exagères un tout petit peu là quand même.
Mais... Oh bah non, c'est vrai. J'ai
t'as la tête très occupée.
Les cases sont trop remplies, là, ça déborde. Il y en a quelques autres quand même dont les noms devraient me revenir. Gaël Vigneault, Carimouche, voilà. Enfin, bon, sans doute que, enfin, plein d'autres même que j'oublie, c'est sûr et certain. Fromesil. Autres voilà qui ont été lauréats d'un autre concours l'année dernière sur Vive la reprise là qui est porté par le Centre de la chanson et ils ont eu le prix de la Damini, je sais plus quoi, enfin bon bref voilà, ils sont passés par le tremplin avant. Damien Bousquet, oui, ça me revient quand même, ça remonte. Coco, voilà, qui sont tous des gens aujourd'hui qui continuent à exercer leur métier. Donc, parce que certains des noms que je viens de citer, c'est des gens qu'on a accueillis en finaliste il y a plus de 10 ans, enfin, pour certains. Et je sais aujourd'hui, pour voir leur nom régulièrement dans des programmations, qu'ils continuent à faire ce métier, à sortir des disques, etc. Donc oui, évidemment que le tremplin en soi n'est pas être lauréat ne va pas bouleverser du jour au lendemain votre carrière. On n'est malheureusement pas encore à un stade de tremplin où il y a 3000 programmateurs qui sont dans la salle et où tout d'un coup, brutalement, quelqu'un qui a vraiment quelque chose va émerger d'un seul coup. Il y a peut-être 2-3 tremplins en France qui font ça, qui permettent ça, quoi, comme au Printemps de Bourges ou à Montauban. Il y avait ça aussi dans les sélections découvertes de Montauban. Bon, bah, c'est vrai que quand on passe dans ce genre de lieu, c'est un gros coup de projecteur parce que la salle est bourrée de programmateurs qui viennent de partout en France et que si vraiment il y a un coup de cœur, tout d'un coup, un artiste qui était totalement inconnu peut émerger très rapidement. Voilà, donc nous, on n'a pas cet impact-là, malheureusement, encore auprès de la profession, mais voilà, c'est un maillon dans une longue chaîne qui constitue une carrière d'artiste, quoi.
C'est ce que tu proposes au DIWA, de peut-être aider à l'émergence de quelqu'un qui comptera dans la chanson française.
Oui, oui, tout à fait, parce que d'abord, je trouve ça hyper important que un lieu comme le nôtre soit un lieu qui favorise l'émergence, voilà, qui permette de donner cette visibilité-là, cette chance-là. En plus, je trouve, pour le connaître encore une fois de mieux en mieux, le public d'IWA extrêmement curieux et pas facile à convaincre, mais une fois qu'il l'est, très curieux et fidèle. Et du coup, je suis certain qu'il y aura une vraie curiosité pour aller voir des artistes qu'ils ne connaissent pas et avoir envie de les accompagner. Voilà, je crois qu'il y a aussi cette... générosité là de la part du public de notre territoire et voilà, c'est effectivement dans nos missions. On essaye aussi au-delà, là bon c'est pas encore fait, mais par exemple il y a un projet là, actuel auquel on est un peu associé dans la réflexion en tout cas de création d'un studio d'enregistrement sur Beaumont-en-Diois. L'idée c'est de les associer aussi pour que dans les prix on rajoute aussi la possibilité d'enregistrer une maquette avec voilà, dans un studio du territoire et que du coup finalement pour le lauréat il y a un vrai intérêt à participer puisque s'il gagne, eh bien, au candidat, pardon, il y a un vrai intérêt à participer, parce que s'il gagne, il peut avoir du temps de travail sur plateau, la rencontre avec un public, de l'accompagnement radio avec des radios comme RDOA, par exemple, puisqu'on en a un petit peu parlé dans ce sens, la possibilité d'enregistrer un disque. Enfin, voilà, et là, on est vraiment sur des outils très concrets qui ont vocation à effectivement aider au développement de carrière.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'à quand ?
Jusqu'au 31 janvier, donc alors, il faut se dépêcher.
Si vous entendez cette interview avant le 31 janvier, sachez que vous pouvez vous inscrire au tremplin découverte chanson française.
Voilà, tout à fait, oui, il est encore temps. Bon, on a un peu une tolérance. Voilà, si l'enveloppe arrive le 5 février, on ne va pas la mettre à la poubelle. Mais voilà, disons que c'est quand même plutôt la fin du mois qui est visée. Et donc, les bulletins d'inscription sont téléchargeables sur le site du Théâtre de Die, www.théâtre-de-die.com.
Je mettrai le lien qui va avec, ça aidera les auditeurs. Je rappelle la date, c'est le 5 avril,
oui.
Au Théâtre de Die, c'est gratuit ?
C'est gratuit, oui, parce que c'est important que la barrière de l'argent ne soit pas une barrière, justement. Et que venir découvrir, c'est venir prendre un risque. Alors c'est vrai que payer pour prendre un risque, c'est toujours... ça fait partie aussi de la relation du spectateur avec une offre culturelle. Mais là, dans le cas présent, on a vraiment envie que la circulation se fasse hors de ce cadre financier.
Une soirée de découverte et puis de divertissement quand même aussi.
Ah oui, de divertissement, parce que les univers sont en général très, très atypiques, donc on passe plutôt un bon moment. Puis voilà, il y a ce côté, on choisit notre candidat, enfin ça crée toujours une ambiance un peu particulière, parce que partout où j'ai vu voir se faire des tremplins ou des concours, en fait, le public qui est présent, à partir du moment où il a la possibilité d'exprimer son choix ou sa préférence, il prend ça très au sérieux. Et je me souviens d'avoir vu à Delphi des gens, avant de mettre leur croix dans la case de l'artiste qui voulait choisir, avoir des discussions enflammées, en disant « mais non, mais moi, machin, il est beaucoup mieux parce que ceci, cela, mais non, tu peux pas voter pour lui parce que... » etc. Donc ça crée, il y a un vrai investissement personnel, en fait, du public.
Merci beaucoup, Harold David.
Ben, merci, de rien.
Restez à l'écoute des ondes de RDWA. Retrouvez toutes nos autres interviews sur le www.rdwa.fr. Bonne fin de journée à tous.
Encore un matin comme tant d'autres, la journée déjà bien entamée. J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour atteindre la cafetière. La tête dans le fion, je cherche la révélation. Jette un œil dans la rue, les gens ne se regardent même plus. Rien n'a changé depuis hier. Le même junkie vissé devant le tabac qui mendie. La même boiteuse avec sa gnôle à la béquille. Les mêmes bagnoles pressées et qui se pressent et qui se scratchent en bas de mes escaliers. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa. En regardant tout ça, et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Et tra la 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 bla 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 bla. Et moi pendant ce temps-là, je vois mon petit kawa. En regardant tout ça, et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Et tra la 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 bla 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 bla. Un peu plus tard, le téléphone sonne. C'est Bécassine, ma cousine, qui vient d'être virée de son usine. Elle me déballe ses tracas, je lui demande si ça va. Elle me dit, tu m'écoutes pas, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai la tête en vrac, les impôts me traquent. J'ai même pas de quoi me payer un sac et mon mec me plaque. C'est quoi cette vie, une blague ou une arnaque? Ça fait du bien de vider son sac à la famille. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa. En regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Et tra la 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 bla 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 bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa. En regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Et tra la 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 bla 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 bla. Je raccroche le combiné, je prends les clés pour aller voir le courrier. Modou des acédiques pour m'informer que j'ai plus de fric. La journée commence très chic. Des petites bourgeoises qui pètent plus haut que leur cul et qui sont abonnées à l'ONU, qui parlent de la famine en repoudrant leur petite mine. Nous sommes envahis par des vermines. Je suis virulente contre les virus rapides. L'économie de ces raspivides, ces ours qui spéculent à la bourse, atteints de fièvre acheteuse, couchés sur leur pécule. Mais ces animaux-là ne traînent pas dans ma rue, protégés dans leurs zones par une armée de blaireaux. Et moi je pense à ça, toujours derrière mes carreaux. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa. En regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Et tra la 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 bla 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 bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa. En regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Et tra la la la.